Antoine Logini, notre géographe lecteur, est déjà de retour pour notre plus grand plaisir. Il nous a promenés dans les paysages d'hiver et de la Bretagne, des hautes terres du Massif central. Grâce aux jolis mots des autrices et auteurs choisis par Antoine, celles et ceux qui savent écrire la géographie et le paysage et nous emporter par les oreilles, aujourd'hui la balade sera essentiellement bretonne puisque nous revenons vers les rivages. Bonjour Antoine.
Bonjour Véronique.
Alors nos Bretagnes à nous sont quand même intérieures.
Oui, tout à fait. Alors c'est une idée qui me tient à cœur. Alors j'étais venu en avril dernier et lors de notre première rencontre, la première émission, j'avais essayé de dire à l'aide des mots de Georges Perros et de Michel Lebris en particulier, mon choix d'un territoire où vivre, celui de la pointe de Bretagne entre Pamart et Saint-Mathieu avec la mer d'Iroise, la baie de Douarnenez et la rade de Brest. Et j'y racontais l'attraction irrésistible qui m'a ramené encore et encore et toujours vers quelques lieux de ces rivages précis, quelques lieux où je reviens toujours et quelques lieux que le temps n'épuise pas, où je peux encore revenir, j'espère pouvoir revenir jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, et par exemple, les rivières marines du fond de la rade de Brest, on avait parlé de Moulin-Mer, de la pointe du Château, on avait parlé de Douarnenez, du chemin des Plomards, de Sainte-Anne-la-Palue, la maison phare, de la pointe du Millier, pour moi aussi, Kériti, ouvert au grand large. Et alors ma Bretagne, je l'avais dit à cette occasion, je pourrais la réduire à quelques lieux, et elle est pourtant en moi immense. D'où cette phrase, en effet, de Michel Lebris, que je garde un peu comme une orientation à un viatique. Hein. Nos Bretagnes à nous sont toujours intérieures. Et c'est autour de cette phrase que j'ai bâti la promenade littéraire d'aujourd'hui. Voilà. Et avec, en effet, une idée peut-être de fond et qui, pour moi, est précieuse, c'est que notre rapport au monde, c'est à la fois une expérience intime, très personnelle, mais ce qui fait sa saveur, c'est qu'elle est partageable avec tous, parce qu'on a tous une expérience du monde. Et en fait, c'est ce rapport entre le personnel et un peu l'universel qui est contenu aussi dans cette phrase de Michel Lebris. Et alors, pour démarrer, justement, j'avais envie de venir sur un texte de Michel Lebris qui est tiré d'un des derniers livres publiés avant son décès, son abécédaire intime, qui a été publié en 2021, où il reprend toute une série de mots, d'auteurs aussi, dont il parle, et fait un peu un tour de tout ce qu'il a nourri. Et dedans, il y a un terme « identité bretonne ». Vaste question.
Ah oui, on pourrait en faire des dizaines d'émissions.
Et alors justement, alors moi je vais être très impressionné, je prétends absolument pas, surtout de mon point de vue, faire le tour du sujet, mais ce qu'il écrit me paraît très très intéressant. Et donc je vais, plutôt que parler, laisser parler Michel Lebris. Donc, identité bretonne, une évidence et un problème. L'identité bretonne, une évidence et un problème. Une évidence, par-delà les mots, les définitions, les polémiques, ce sentiment qu'elle se noue à notre être même. Les choses se compliquent dès que nous tentons de préciser les contours de cette identité. Entre nous, nous n'avons jamais cessé de nous disputer. Que peuvent bien avoir en commun, à les entendre les uns et les autres tous intérissables sur cette question, Trégorois et Léonard, pour ne rien dire des Bigoudins, des Vannetais, des Malouins et j'en passe. Multiples sont nos microclimats. Et cela vaut tout autant pour nos cousins irlandais ou écossais. Stevenson, qui vécut l'essentiel de sa vie à courir le monde, s'en étonnait déjà. Bien diverses sont les origines des Écossais, et si divers leurs langages qu'ils se comprennent à peine, de sorte que l'histoire de l'Écosse est d'abord celle de haines inextinguibles et de batailles sanglantes. Mais que ces ennemis en leur propre pays se retrouvent en quelque autre lieu de la planète, et ils tombent dans les bras l'un de l'autre en pleurant le pays perdu. D'ailleurs, soupirait l'écrivain, condamné par l'évolution de son état de santé à ne pouvoir quitter les Samoa, que ne donnerait-il pas lui-même pour voir tomber une fois encore la pluie sur la mer Muire, même s'il savait qu'à peine arrivé, il serait reparti. De tous les mystères de l'âme humaine, concluait-il, il n'en est pas de plus étrange que cette immense nostalgie d'un pays chimérique. Peut-être est-ce là un bon point de départ pour creuser l'énigme de cette identité tout à la fois évidente et mystérieuse. S'il fallait la caractériser, pour ce qui me concerne, je risquerais tout à la fois une extrême sensibilité au poème du monde, la sensation aiguë d'une présence des éléments et la nostalgie pourtant d'un ailleurs, comme si notre pays était aussi un pays absent, nous attendant quelque part derrière l'horizon. Un goût particulier pour le blotti, l'intime, les chemins creux, maisons enfouies dans la végétation, fontaines cachées, et en même temps l'ivresse du grand large, des cieux immenses, de l'ouvert. Un rapport très singulier entre la terre et la mer, un constant balancement entre l'enracinement et l'errance, un mélange dans ses meilleures œuvres d'âpre ironie et de lyrisme vertigineux, de réalisme et de deux mesures, avec un fort penchant pour les perdants magnifiques, les rêveurs de royaumes, les traqueurs de chimères.
J'adore cette... Opposition entre le goût pour le blotti et l'ivresse du grand large, oui. c'est bien vu.
Et c'est très bien vu. Alors, il y a plusieurs choses, ce texte, alors je ne vais pas du tout l'analyser, mais il y a quand même des mots absolument fantastiques. C'est immense nostalgie d'un pays chimérique, cette part du rêve, de l'ailleurs, et en effet du blotti et de l'ouvert, du chemin creux hein, en Bretagne et du grand large. Et alors ce qui est, je pense qu'il touche très juste avec ces balancements entre des pôles qui pourraient être contradictoires, et alors on va retrouver ça chez un grand auteur breton, un grand poète breton, Xavier Gral, qui dans un de ses, alors je suis pas un spécialiste de Gral, mais c'est quand même un de ses premiers poèmes, longs poèmes parus, Le Rituel Breton en 1965, où là aussi il va dire sa Bretagne, qui est aussi une Bretagne intérieure et largement chimérique, un poème très lyrique, et où là aussi il va nouer cette Bretagne du local au monde entier, en fait. Donc, je ne vais pas lire le Rituel Breton, c'est un poème fleuve, assez difficile à lire, mais je vais en lire quelques fragments où, pour moi, Gral touche à quelque chose de très juste aussi entre l'ici et l'ailleurs, et le rêve. Au far ouest du monde européen, je te salue, ma vigie auturière, amère de mes lofs, aber de ma paix, varègue de mes peines, salut. Dans la feria de l'été, je te célèbre, ô tumulte du monde, ô roc, ô lame, ô rat, je te chante mon pays dans la miséricorde des rias. Te nommant armorique, je nomme le cap des hautes terres. Te nommant armorique, je nomme le risque et la dérade, et le chemin des courlis, et l'espérance de Java et de Bali. Te nommant, je nomme tout songe, et les Missouri bleus, et les Mekong laqués. Te nommant, je dis les îles, et le vent, et les joies déhalées. Cet aujourd'hui ne sait plus rêver. Cet aujourd'hui ne sait plus ce que veut dire le mot « île » et le mot « féroé ». Mon Ilienne, en ce siècle mathématique, technique, atomique, chimique, dis-leur le poème de la mer, le prodige du matin et le miracle du vent, et dis-leur la jubilation des capitaines qui s'en venaient de Madère dans l'assomption d'une misaine. Je ne suis pas de mon temps, je ne suis pas d'ici. J'appelle les beffrois au siècle des HLM, j'appelle les alezans au temps des carrossiers et je veux les bourgs et les pommiers au temps de l'usine et des passages cloutés. Cet aujourd'hui ne sait plus rêver, cet aujourd'hui ne sait pas ce que veut dire le mot île et le mot féroé. À Témara, près de Salé, j'ai pleuré sur la splendeur des mers sarrasines désertées et j'ai rêvé de toi, gardienne de l'extrême ouest. Ah, quand allirai-je à tes norrois le miel des aurores africaines? À quand allirai-je la vigueur de tes chaînes à la sensualité des figuiers? Et ceci sera mon testament. À mes parents, je lègue ce rituel, résidence de ma poésie. Et ceci sera mon testament. À mes parents, je lègue ma souvenance des navires trépassés qui s'en venaient comme des filles d'Islande ou de Mauritanie. Et ceci sera mon testament. À mes berbères, je lègue les oiseaux des Glénans et le sourire de Concarneau. À mes berbères, je lègue l'allégresse des fontaines et les printemps du pays gallo. Et ceci sera mon testament. À mes amis, je lègue l'alliance de l'Ouest et du Sud, le mariage des dolmens et des mosquées et les fiançailles des roses avec les oliviers. Notre-Dame des îles et Notre-Dame des goémons, Notre-Dame des navires et Notre-Dame des houes, Notre-Dame des marins et Notre-Dame des paysans, priez pour moi, l'infidèle pèlerin du monde entier.
En effet, le monde entier est en Bretagne.
Voilà.
On le sait grâce à Xavier Gral.
Et voilà ce qui est riche, c'est ça, c'est le monde entier en Bretagne, dans ce petit pays finalement. Et puis aussi, il y a une phrase qui résonne beaucoup avec l'immense nostalgie d'un pays chimérique dont parlaient Stevenson et Michel Lebris. C'est « En te nommant armorique, je nomme tout songe », en effet. Mm-hmm. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on touche cette question d'identité. Elle est du domaine du songe.
Et oui,
tant mieux, tant mieux, finalement. Et alors justement, est-ce que, là on voit avec Gral, on a un poète, est-ce que ce regard est celui du poète qui habite politiquement le monde, mais pas que en fait, parce qu'en fouillant dans mes textes, je suis retombé sur un texte d'un grand géographe, Élisée Reclus. Élisée Reclus, c'est le grand géographe universaliste de la fin du 19e siècle, qui en particulier a écrit une nouvelle géographie universelle, et en une heure, je sais plus, il y a une quinzaine de volumes, mais le tome 2 est consacré à la France, et dedans, il y a une partie, bien sûr, à la Bretagne, puisqu'il fait le tour de tous les territoires. Alors, c'est assez fabuleux, hein. Il a écrit ça seul, en rassemblant les savoirs de son temps.
Hein. Et il n'est pas allé directement sur place à chaque fois, on ne sait pas.
On ne sait pas, il a parcouru certains endroits, mais c'est sûr qu'il n'est pas allé à chaque fois, il rassemble des éléments. Et on va voir pour la Bretagne, il connaissait la Bretagne, ça a été un grand marcheur sans doute, mais c'est pas un des endroits qu'il a le plus sillonné, je pense, à vérifier. Et moi, ce qui m'a intéressé, particulier, c'est que dans sa partie sur la Bretagne, de ce grand livre, il va parler de la Bretagne et il va parler de nostalgie. On va retrouver ce lien entre la nostalgie et l'identité bretonne. Donc il décrit, avant il a décrit la géographie, la géologie de la Bretagne de façon très descriptive, et puis d'un seul coup, devient aussi lyrique en fait, c'est un écrivain. L'aspect général de la Bretagne laisse une impression de grandeur monotone, d'un beau vert briseux a peint sa patrie, ô terre de granit recouverte de chênes. Mais au groupe de la roche puissante et de l'arbre robuste, il faut ajouter les paysages plus modestes, et non moins beaux, que font les vastes landes, rouges de bruyère ou dorées par les fleurs déjeunées des ajoncs, les rangées de pierres grises plantées en bordure le long des champs, les chemins sinueux entre les haies vertes, les ruisseaux tranquilles, les mares à demi cachées sous l'ombrage, les vieux murs revêtus de lierre. Dans le voisinage des baies et des rivières à marées qui découpent tant de péninsules sur la côte de Bretagne, ce sont d'autres aspects. Les sables émergés recouverts tour à tour, les roches solitaires qui résistent aux vagues, les grèves noires des cailloux que le flot pousse et ramène avec un bruit de chaînes et de sanglots. Peu de spectacles laissent un plus profond souvenir que celui des houles de tempête qui, du large de l'Atlantique, viennent se heurter contre les falaises avancées du Finistère. Souvent, un ciel bas et sombre pèse sur l'espace et donne à la nature entière une physionomie de tristesse et de désespoir. Pendant les beaux jours, la mélancolie de la terre et du ciel fait place à une joie tout intime et contenue, si discrète qu'elle ose à peine se révéler. On la sent, mais elle ne se montre pas. Tels sont les paysages de la Bretagne. Le charme pénétrant en agit avec d'autant plus de force sur les paysans bretons que la plupart n'ont point encore modifié leur milieu par l'industrie ni renouvelé leur esprit par l'étude. Aussi, les bretons dépaysés se laissent-ils souvent envahir par la nostalgie. Enfermant obstinément leurs pensées dans le souvenir de la patrie, ils meurent à tout ce qui les entoure et finissent par s'éteindre sans avoir échappé à l'étreinte de leurs rêves.
Il est dur quand même.
Et c'est beau quand même. Non, c'est beau, c'est assez fantastique cette façon dont là aussi il va lier quand même, il y a quelque chose où il lie le paysage breton et son climat à la nostalgie auquel on n'échappe pas. Il y a quelque chose qui prend, qui n'est pas forcément d'une gaieté farouche,
non.
mais qui est poignant et dont on ne se détache pas. Donc voilà,
bien. On reclut. Écoutons un peu de nostalgie justement. Sans Scoliatère, un extrait de la suite numéro 2, Caire et On, de la plage 9 du disque Molène, suite pour piano. Vous aurez reconnu sans doute Didier Skiban. Le choix de notre Antoine Logini, avec qui on parcourt une fois par mois des pages et des paysages. La géographie par la littérature et la poésie, aujourd'hui, elle est bretonne, plutôt côtière, quoique. On explore plutôt les géographies et leurs liens, géographie physique, paysage, géographie humaine, sociale, politique, économique. Antoine, juste un petit mot de ce choix de Didier Skiban.
Oui, alors très brièvement, mais bon, j'aime beaucoup... Tous les morceaux de Didier Skiban avec toute cette légèreté et cette mélancolie dans sa musique et qui pour moi porte de façon incroyable la sensation de l'océan, le rivage, les marées, les vasières, le large, tout est porté dans sa musique avec subtilité. Donc voilà. Et justement, ça faisait le lien pour moi avec cette nostalgie dont parlait Reclus, mais qu'on retrouvait chez Graal et chez Michel Lebris, cette terre du songe. Et pour poursuivre, je voulais aller au-delà des textes présentés dans cette première partie, toujours de façon impressionniste, et je prétends pas du tout faire le tour ni d'être objectif sur cette question des imaginaires et des identités. Ça n'aurait pas d'intérêt d'ailleurs, et je ne le recherche pas. Je voulais maintenant remonter un peu dans le temps avec deux textes que j'aime beaucoup pour la description qu'ils font du paysage et de la société de l'extrême armorique dans les années 1930, avant les grands changements de l'après-guerre, avant les grandes modifications à la fois de la société, des paysages agricoles en particulier. Et là, on va trouver, on va partir avec Julien Gracq d'abord, puis une grande autrice, peut-être pas assez connue, Odette Dupuy-Godeau. Et voilà, et on va plonger à travers ces textes dans j'appelle ça un autre monde, mais dont subsistent sans doute des traces dans l'imaginaire contemporain, et en particulier la présence d'une vie communautaire très forte face à la puissance de l'océan, à la rudesse de la vie sur les rivages des confins atlantiques, et cette vie collective essentielle, et on va la trouver prenant des formes différentes, avec Julien Gracq sur la côte du littoral Bigoudin, du côté de Quéritier, Pamar, Saint-Guénolé, et avec Odette Dupuy-Godeau sur l'île de Sein. Alors, je vais commencer par Julien Gracq avec un texte qui fait référence à la période où Gracq était enseignant au lycée de Quimper, enseignant en histoire-géographie de 1937 à 1939. Et pour lui, ça a été des années essentielles, à la fois par sa fréquentation de cette Bretagne, mais aussi c'est le moment qui a déterminé son trajet vers l'écriture. C'est là où il a publié au château d'Argol son premier livre en 1938 avec ce mot Argol qu'il a tiré, bien sûr d'Argol, proche d'ici, là, juste avant la presqu'île de Crozon. Et donc dans ce texte, c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il fait le lien entre le communisme, le catholicisme et aussi les paysages du littoral bigoudin, donc partout en terre communiste.
Allons-y.
Le caractère de contre-société verrouillée contre l'extérieur a été dans les années de la guerre froide beaucoup plus marqué dans le parti communiste qu'il ne l'était avant 1939. Tout au moins là où j'ai connu le parti, dans une section somnolente du bout de l'Armorique. Il faut dire que le communisme sud-finistérien gardait des aspects folkloriques qui m'attachaient. Il accentuait par son recrutement l'étrangeté du paysage humain breton qui me plaisait tant. Peu ou pas d'ouvriers, à peine quelques paysans, quelques cheminots, mais surtout à l'Esconil, à l'Échaga, au Guilvinec, à Douarnenez, à Concarneau, où étaient nos municipalités, une troupe de palangriers, thoniers, langoustiers, sardiniers, en ciré et sabots, écumant d'un bout à l'autre de l'année la Grande Sole et le Golfe de Gascogne sur le Joseph Staline, la Stella Maris, la Grâce de Dieu ou la Lumière d'Octobre. Point de réunion fixe pour ces laboureurs de la mer. De temps en temps seulement, le samedi soir ou le dimanche, un meeting chauffé aux alcools du cru. Le communisme des hommes était un doublé du catholicisme des femmes. Fétichisme sentimental violent, gris-gris, saute devant de la Providence, dévotion brutale et capricieuse du péril de mer. J'aimais ces hommes rugueux, ennemis de la nuance et qui se donnaient d'un seul coup. Leur univers était manichéen et pur, de couleurs tranchées. La mer comme horizon et comme véhicule, pour nourriture le pesquet, à terre et face à face, rien d'autre que leur peuple en sabots et son tourmenteur juré, le patron de la conserverie, où travaillaient toutes les femmes et contre laquelle périodiquement les pavés volaient. Mais si cloîtré était leur monde de la terre ferme, à peine doué de consistance tellement il s'ouvrait de partout sur le large, le contact militant avec eux restait sans ancrage ferme et sans vraie solidité, plutôt celui d'un missionnaire avec sa peuplade. Alors, après, je vais continuer avec un texte où il évoque ses retours le dimanche, et là on va retrouver le Gracq qui parle du paysage du rivage. Quelquefois le dimanche, quand j'étais libéré des tâches du parti, je retournais pour mon seul plaisir dans un de ces petits ports, non pas Douarnenez ou Concarneau, mais plutôt les Chagas, Authière, le Guilvinec, Pinmar. Pinmar surtout. Quand je débarquais du car aux environs de la cale, le remue-ménage des lourdes silhouettes aux dandinements d'ours, bâchées de bleu et de rose saumon, faisait penser à une colonie de naufragés placides, guettant vers le large l'arrivée des secours. Les mains dans les poches, humant le vent par groupe à la racine de la jetée, ils avaient l'air d'attendre sans impatience l'arrivée d'un bateau qui vint les dépanner. Entre ces désœuvrés en transit et le troupeau des basses maisons blanches auxquelles ils tournaient le dos, il était difficile d'imaginer relations plus distraites. Dans la cour des petits cafés pleins à craquer, d'autres matelots jouaient aux boules dans de longues boîtes à sable en planches. Derrière les maisons de la Grand-Rue, où l'herbe commençait tout de suite après les jardinets dérisoires, plus rien que le claquement furieux, échevelé, des lessives dans le vent de mer. Le voile bas des grains se déchirait et l'éclaircie déplissait son mouchoir bleu. Pour quelques minutes, sur les toits vernissés par l'averse, sur le vert cru de l'herbe arrosée, sur les sarabandes neigeuses du linge, il tombait avec le soleil neuf une gaieté acide, claquante de printemps. Sous ce soleil d'embellie un peu blanc, quand on montait vers l'intérieur en direction de Tronoën, la basse plateforme étalée de Pinmar, avec les frisures de son bordé d'écume, avec le semis lâche de ses éclatantes petites maisons sur le gazon ras, avait l'air en effet d'un gai parc de mer, lavé, arrosé de frais, peuplé, alerte et tout entier animé par le vent. Quand il est fait étinceler entre deux nuées, ses avancées pauvres et ordinairement morfondues de la terre, avec leurs phares, leurs amers, leurs maisons cholées accrues, prennent le soleil plus luxueusement que nulle part. Après Kériti, là où les maisons à un moment cèdent du terrain sous l'assaut du vent, j'aimais me promener sur le boulevard de mer trempé d'embrun qui court nu au ras de l'eau jusqu'à Saint-Guénolé, ne laissant à marée haute entre lui et les vagues que l'enclave de la chapelle de la Joie. Quand je revenais à la nuit tombante vers Quimper, il me semblait vraiment que je quittais un domaine du couchant, une lisière qui tournait le dos au continent et restait attentive à d'autres soleils, pareil à une femme accoudée au balcon qu'on regarde de dos du fond de la chambre obscure.
Il donne vraiment du relief au plat pays bigoudin. C'est
incroyable.
C'est ça.
Tout à fait. Et là, on retrouve, hein, comme dans les bus, cette tournée vers un ailleurs. Là aussi, on retrouve ça. Et puis, j'aime beaucoup sa description très précise et qui paraît très juste de cette société des pêcheurs.
Tout à fait.
Entre communisme et catholicisme.
Ouais, c'est drôle.
Et qu'on retrouve dans l'histoire de Douarnenez, moi, qui
vient oui, bien sûr.
Très fortement.
Ah oui, bah ça, voilà. Avec les conserveries qui employaient les femmes, justement.
Voilà. Et j'avais envie, pour terminer, de citer Odette Dupuis-Godeau, autour d'un texte là aussi sur l'île de Sein, où elle va évoquer la vie communautaire de l'île, et on pourrait trouver les racines d'un proto-communisme en fait dans cette vie collective qui après s'incarne dans le texte de Gracq avec les tentatives du parti communisme dans les années 30. Odette Dupuis-Godeau, c'est une femme très étonnante et passionnante. C'était une très grande aventurière, voyageuse, en particulier qui a ethnologue, en particulier dans le désert, en Mauritanie, elle a écrit des ouvrages et elle a consacré sa vie au Sahara occidental, mais elle a voyagé, elle est originaire, enfin sa famille est de Bretagne, avait une maison en Bretagne, et elle a voyagé en Bretagne, en partie dans les îles, dans les tout débuts, fin des années 20, début des années 30, et en 45, elle a rassemblé ses notes et ses articles écrits en 1932, elle les a rassemblés dans un ouvrage qu'elle a intitulé « Grandeur des îles », où elle cherche à dire un monde menacé de disparition à cette époque-là, et en dire la grandeur, et en particulier une culture du partage qui la fascine. Donc on va suivre l'arrivée d'Odette Dupuis-Godeau à Sein, où elle a embarqué de Brest sur un petit sloop, un petit voilier, et c'est l'arrivée de ce sloop sur la cale de débarquement, la cale de la Poste, sur l'île de Sein. C'est alors que je vis la première ilienne. Elle s'était arrêtée en haut de la cale, curieuse, une main sur la hanche, l'autre soutenant une grande corbeille d'algues bien d'aplomb sur sa tête. Elle me regarda approcher. Deux aigues marines luisaient dans son visage étroit et grave. L'île m'épiait de ses yeux verts. Des femmes passaient, sérieuses, lentes silhouettes de nonnes dans leur béguinage. Elles me jetèrent des regards inquiets et les enfants s'arrêtèrent, candides, en levant vers moi des yeux ébahis. Sur un banc, trois vieux tontons, rendus par la mer depuis bien des saisons, chauffaient leur rhumatisme au soleil. Quelques pêcheurs qui ramandaient leurs chaluts accrochés aux façades ou réparaient leurs casiers sur le muretin du port détournèrent la tête un instant vers l'inconnu. Une sorte de malaise me venait de toutes ces prunelles étranges, vert clair, vert bleuté, vert sombre, couleur d'eau, de coquillages et d'algues, de ces yeux sertis de cils noirs où dormait on ne savait quel mystère marin sous des phosphorescences félines. des chatoiements de pierres précieuses, des douceurs de jade, et qui avait pris de l'océan la profondeur glauque à force de s'y débattre, les transparences pures à force de s'y mirer. Je m'inquiétais d'un gîte. L'hôtel, c'était bien pour les touristes. Parce que j'étais chaudement recommandé par le patron du sloop qui me connaissait depuis 12 heures à peine, l'épicière consentit à me louer une maison de 4 pièces qui sentait le savon et la peinture neuve. Assuré d'un toit, je m'en fus aux vivres. L'île de Sein possède 5 vaches, qui vont d'instinct chercher leur pâturage sur un îlot herbeux, inaccessible à marée haute. Elles partent à la queue leu-leu avec le jusant et s'en reviennent au bourg avec le flot. On rencontre aussi, ça et là, une poule. À l'autre bout de l'île se trouvent les champs, entourés de murettes de pierres sèches qu'on enjambe pour entrer ou sortir. Ils sont plantés principalement de patates. Le poisson est rare. Il sert à appâter les casiers à homards, et les homards, on les vend aux marailleurs de Brest. Tout ce que ne produisent pas la mer, les 5 vaches, les 20 poules et les champs, doit être importé du continent. Quand il fait beau, le zénith apporte d'Audierne le courrier et le ravitaillement. En hiver, on l'attend 2 ou 3 mois. Pour les Iliens, les restrictions ne durent pas le temps d'une guerre, mais le temps de chaque vie, même lorsque l'abondance coule sur le monde. Encore ignorante des ressources de l'île, je demandais naïvement à acheter du lait. La gardienne des 5 vaches fixa sur moi des yeux verts, limpides et pleins de réprobation. Le lait de vache, c'est tout pour les malades et les enfants. Pour les autres, il y a du lait de boîte à l'épicerie. Je n'eus pas plus de chance avec les œufs. Quant à la viande, ce jour-là, c'était la mercière, qui répartissait équitablement un demi-veau, arrivé tout découpé du continent. Chacun recevait sa part en quantité et qualité. Je me vis octroyer un bout d'escalope pour toute la semaine. Je commençais à comprendre. Et le soir, je ne fus pas étonné de voir la buraliste s'assurer que tous ses habitués auraient leur dû avant de céder un paquet de gauloises à cette cliente supplémentaire. Bientôt, je sus que le même régime fraternel s'appliquait à tout. Vivre, pharmacie, vêtements, sabots et engins de pêche. On ne savait jamais si on ne manquerait pas avant d'être ravitaillé et l'on partageait au plus juste, comme des naufragés sur un radeau. Personne ne songeait à tricher ou à profiter. On était sur l'île entre honnêtes gens. C'était bien agréable. Même si la honte ne vous avait pas retenu, pour un billet de 100 francs, vous n'auriez pu obtenir un bol de lait, un œuf du jour ou une côtelette de rabiot.
C'était incorruptible alors.
Incorruptible. Et on trouve alors, et c'est vrai que venant du continent, cette ville la fascine. Alors je sais, je vais pas avoir le temps de lire peut-être tout le texte, mais donc elle parle de cette île aux yeux verts. Elle la baptise l'île aux yeux verts.
Oui, j'aimerais bien vérifier ça.
Oui,
alors.
Semble-t-il. Ah bon, oui, semble-t-il, les femmes, enfin et les hommes avaient des yeux verts principalement à ça. Il faudrait vérifier aujourd'hui.
Mais c'est non de souche alors,
voilà.
Les yeux verts.
Et après, elle dit que elle s'installe à ça. Elle dit les yeux depuis longtemps, les yeux verts ne me font plus peur. Et elle raconte qu'elle a partagé toute une série de repas avec des habitants de Sein. Et ce qui est étonnant, elle raconte une façon de vivre à Sein où si quelqu'un a mangé, on peut passer, on s'assied, et elle raconte un grand gars, Lomic, qui est marin sur un bateau, le Saint-Gilda. Elle a préparé une cotrillarde, il voit sa fume sur le rebord de la fenêtre, il s'assied, il mange une écuelle de cotrillarde, et il part sans dire merci. Et elle dit qu'il faut surtout pas s'en offusquer, parce que c'est comme ça. Ouais. Et ce sera la même chose si un jour, elle n'a pas de quoi manger. Eh bien, elle passera et, sans rien demander, elle pourra manger auprès de quelqu'un. Et donc, elle parle de cette façon très simple de partager qui fait la caractéristique de ces îles, de ces rivages pour elle. Et là, un petit lien entre ce que raconte Gracq et ce que raconte Odette du Pigaudeau.